Bonjour à tous. J'ai le privilège de traiter ce matin le sujet « Sommes-nous vraiment au temps de la fin ?» Nous posons la question « Peut-on trouver dans la Bible des arguments irréfutables pour croire que nous vivons aujourd'hui dans les derniers temps et que Jésus-Christ reviendra bientôt ?» Voilà. Nous avons ici sur la photo une vue du mont des Oliviers, vue depuis le mont du Temple. Selon Zacharie 14, 3, Jésus-Christ reviendra sur cette colline dans les derniers temps. Eh bien, sommes-nous déjà dans les temps de la fin? D'abord, il faut donner une définition. Que veut dire l'expression « le temps de la fin » ? C'est un thème avec beaucoup de variations. Voilà quelques exemples. En Ézéchiel 38, verset 8, nous avons l'expression « à la fin des années ». Daniel 8, 23, « au dernier temps ». Osée 3, verset 5, « à la fin des jours ». Joël 4, ou selon l'édition de la Bible, 3, verset 1er, « en ces jours-là et en ce temps-là ». De nouveau, un terme typique, technique pour les derniers temps. Acte 2, 17, « au dernier jour ». 2 Timothée 3, verset 1er, « dans les derniers jours ». 1 Jean 2, verset 18, « la dernière heure ». Et il y a encore beaucoup d'autres expressions. Mais on peut dire, toutes ces expressions parlent du temps du Messie, où le Messie va venir pour régner sur cette terre en justice. Et voilà, nous avons de nouveau utilisé un terme technique de la Bible, le Messie. Qui est le Messie? Le Messie est le Sauveur promis dans les écrits de l'Ancien Testament, écrits bien longtemps avant la venue de Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Mais les prophètes ont décrit le Messie de deux manières différentes. Beaucoup de passages nous le présentent comme le Messie souffrant qui viendrait un jour pour mourir comme un sacrifice, le juste pour les injustes pour nous amener à Dieu. Voilà par exemple Ésaïe 53, Psaume 22, Daniel 9, etc. Beaucoup d'autres passages le présentent comme le Messie triomphant qui un jour va venir pour régner sur cette terre pour venir comme juge du monde et non plus comme sauveur du monde. La tâche de la venue du Messie souffrant. Eh bien, comment on peut réconcilier ces deux présentations totalement différentes? Eh bien, il s'agit de deux venues différentes du Messie. Une première fois, on peut le montrer par le texte biblique de l'Ancien Testament déjà, une première fois, il devait venir comme le Messie souffrant, et longtemps plus tard, une deuxième fois comme le Messie triomphant. Et on peut distinguer ces deux venues, déjà dans les écrits de l'Ancien Testament, par une clé. En rapport avec la venue du Messie souffrant, les prophètes ont annoncé que la masse de son peuple le rejettera. Mais par la suite, le peuple juif sera dispersé dans le monde entier. Eh bien, tout cela s'est accompli par la venue de Jésus il y a 2000 ans. Il a été crucifié, mais ressuscité le troisième jour. Mais comme conséquence du rejet de Jésus comme Messie, Jérusalem a été détruit à l'an 70 par les Romains, également le temple à Jérusalem. Et dans la suite, dans un processus de plusieurs centaines d'années, le peuple juif a été arraché au-dessus de sa terre et dispersé littéralement parmi tous les cinq continents du monde. Eh bien, en rapport avec le Messie triomphant, les prophètes ont annoncé que dans la période avant sa venue, le peuple juif sera rassemblé de toutes les nations pour retourner au pays des ancêtres. Et voilà, cela est remarquable et intéressant d'une façon particulière pour nous, parce que nous vivons cette époque où le peuple juif retourne au pays des ancêtres après presque 2000 ans de dispersion parmi les nations. Et voilà, cette période de ce processus de retour des Juifs est appelée dans la Bible les derniers temps. Donc, le terme ne parle pas de la fin du monde, mais plutôt de la fin de cette longue période entre la première et la deuxième venue du Messie. Et voilà, ce signe fondamental des derniers jours a commencé à se réaliser depuis l'an 1882. Cette année marque le début de la première immigration massive en temps moderne de Juifs au pays des ancêtres. Et voilà, une deuxième vague s'est réalisée, une troisième, quatrième, etc., jusqu'à aujourd'hui où 3 millions de Juifs des cinq continents du monde, de plus de 100 pays différents, sont retournés au pays des ancêtres. Eh bien, je veux juste montrer par le texte biblique quelques conséquences fondamentales du rejet de Jésus le Messie. Dieu a déjà parlé à travers de Moïse au 16e siècle avant Jésus-Christ, Lévitique 26, 31. « Et je réduirai vos villes en désert, et je désolerai votre sanctuaire. » Eh bien, 70 après Jésus-Christ, destruction de Jérusalem, dans la suite de l'État juif, et dans la même année, 70 ou 70, destruction du second temple à Jérusalem. Et voilà, je continue en Lévitique 26, le verset 32, « Et je désolerai le pays, et vos ennemis qui habiteront en seront étonnés. » Eh bien, cela s'est réalisé de la façon suivante. Dans un processus de plusieurs centaines d'années, le pays qui ruisselait de lait et de miel est devenu une véritable désolation. Par exemple, Mark Twain, qui avait visité dans les années 60 du 19e siècle le pays appelé à l'époque la Palestine, écrit dans son livre « Innocence Abroad » le pays n'est pas beaucoup peuplé, c'est un pays qui n'a rien de beauté pour l'œil, c'est un pays sans perspective, détruit, sans espérance. Voilà, la Palestine, juste avant la première immigration juive de 1882. Je continue, Lévitique 26, 33. « Et vous, je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous, et votre pays sera mis en désolation, et vos villes seront un désert. » Voilà. Littéralement, cela a été accompli, la dispersion des Juifs, dans un processus de plusieurs centaines d'années parmi les peuples du monde entier. Et également, la persécution juive, depuis l'an 70 jusqu'au 20e siècle, voilà environ 13 millions de morts parmi le peuple juif, à travers tous les siècles. Eh bien, on peut se demander, mais quel est le sens de cette longue période entre la première venue et la deuxième venue du Messie, de Christ? Eh bien, les prophètes ont déjà clarifié la chose en expliquant que c'est la chance pour le monde entier, pour les peuples non-juifs. l'Évangile pour toutes les nations. Eh bien, dans Ésaïe 49, verset 6, Dieu parle au Messie. C'est peu de choses que tu me sois serviteur pour établir les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. Et exactement dans cette période entre la première et la deuxième venue de Jésus-Christ, ou entre le début de la dispersion juive et le commencement du retour des Juifs, l'Évangile a été annoncé sur tous les cinq continents du monde. Où on rencontrait partout les Juifs. Et on se demandait, mais pourquoi ce peuple est ici? Pourquoi on le trouve en Chine? Pourquoi on le trouve en Argentine? Pourquoi on le trouve au Canada? Pourquoi en Afrique du Sud? Eh bien, on a pu expliquer dans la Bible, c'était dit, lorsque le Messie sera rejeté, le peuple sera dispersés dans le monde entier. Il y a des conséquences quand on n'accepte pas le Seigneur Jésus comme sauveur, envoyé par le Père. Et voilà, cette longue période de la chance pour les Juifs était la longue période des Juifs dans la dispersion sans État. Et voilà, cette période est décrite en Osée 3, verset 4, écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc longtemps avant la perte de l'État juif, Osée 3, verset 4, « Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince, et sans sacrifice. » Verset 5, « Ensuite, les fils d'Israël retourneront, c'est-à-dire au pays des ancêtres, à la fin des jours. » Donc le retour des Juifs, après cette longue période sans État, à la fin des jours, dans les derniers temps. Eh bien, nous comprenons donc le terme « les derniers temps » et nous allons considérer ce matin 40 preuves que nous sommes dans les derniers temps. Donc, 40 prophéties de la Bible concernant les derniers jours qui se sont accomplis dans l'espace de 1882 jusqu'à 2010. Je suis en train d'écrire un livre où je traite plus de 160 prophéties accomplies. Mais nous allons considérer seulement 40 et vous serez heureux de ne pas continuer tout de suite. Eh bien, on vient de comprendre que les derniers temps, ce n'est pas un jour ou quelques jours, ce n'est pas une semaine, un mois, mais c'est une période. Une période caractérisée par le retour de Juifs dans un processus, comme c'était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Et voilà, à la fin de ce processus de retour, Jésus-Christ, le Messie triomphant, reviendra. Entre deux, on aura donc l'accomplissement de nombreux événements qui touchent justement la période des derniers temps. Donc, on peut dire aujourd'hui, sur la base de ce signe fondamental des derniers jours, le retour des Juifs, que les derniers temps sont déjà une période de 128 ans. Comme d'ailleurs, la période du début, c'était aussi une période de 135 ans. N'est-ce pas? La venue du Seigneur Jésus il y a 2000 ans est décrite dans 1 Jean 1 comme le commencement. Ce qui était dès le commencement. Et Jean décrit la venue de l'homme Jésus-Christ. Eh bien, la naissance du Messie à Bethléem, sa venue, sa première venue, commencement du début. Et voilà tant de prophéties qui se sont accomplies concernant la vie du Seigneur Jésus, sa mort, sa résurrection, ensuite la destruction de Jérusalem et du Temple, et commencement de la dispersion juive, mais ça a continué jusqu'à la destruction totale de l'État juif, ce qui a eu lieu en 135. juste après cette deuxième révolte des Juifs contre les Romains, ce qui a été violemment abattu par l'empereur Adrien. Et alors, à l'an 135, il n'y avait plus d'État juif. Et voilà les 40 arguments que nous allons traiter. Nous commençons par point 1, le retour des Juifs que j'ai déjà traité, 1882 à 2010. Ézéchiel 36, 24, Dieu dit au 6e siècle avant Jésus-Christ, « Et je vous prendrai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous amènerai sur votre terre. » Notons, le texte n'est pas donné dans un langage symbolique qu'il faudrait d'abord dévoiler, mais c'est un langage compris par tout le monde. 3 millions de Juifs des 5 continents de plus de 100 pays sont retournés. Deuxième point, l'hébreu ranimé, 1881 à 1922. Je lis d'Ésaïe 19, un chapitre qui traite de l'Égypte dans les derniers temps. Et voilà au verset 18, on lit de cette période où le Messie triomphant sera présent sur la terre. En ce temps, on parlera, même dans 5 villes égyptiennes, la langue de Canaan. Eh bien, la langue de Canaan, c'est une expression qui désigne dans l'Ancien Testament l'hébreu. Abraham, qui le père d'Israël, était autrefois en Ur des Chaldéens, au sud de l'Irak, où on parlait à son époque le sumérien et l'acadien. Mais il a dû sortir pour aller au pays de la promesse, et là il a appris la langue des Cananéens. C'est pour ça que les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ont parlé plus tard un dialecte cananéen, l'hébreu. Eh bien, l'hébreu était encore parlé à l'époque du Seigneur Jésus, il y a 2000 ans, au pays des ancêtres, mais par la destruction de l'État juif au 2e siècle, dans la suite, l'hébreu a été perdu. On s'est adapté aux nations, au peuple où on est arrivé comme juif. Alors, l'hébreu est devenu une langue morte comme le latin, et cela pour une période d'environ 1600 ans. Et voilà, Eliezer ben Yehuda, un juif de l'Europe de l'Est, qui est retourné en Palestine, comme on appelait encore à l'époque le pays d'Israël, 1881, il s'est dit, mais les Juifs qui arrivent ici, ils ne devraient pas parler l'arabe ou le français ou le russe, ils devraient plutôt parler la langue des ancêtres, la langue des prophètes. Et voilà, il a commencé à enseigner à l'école en hébreu, il a édité un journal en hébreu, pour apprendre aux Juifs en Palestine comment on peut s'exprimer dans la vie moderne, dans la langue des prophètes. Et il a commencé à faire toute une série d'un grand lexique pour hébreu moderne. Mais il a été attaqué par les Juifs orthodoxes, car on considérait cette tâche d'utiliser la langue sainte pour les choses de tous les jours comme un crime. Il a été plusieurs fois excommunié de la synagogue, il a été lapidé, mais il a continué. Il a dit à Déborah, sa femme, « Notre premier enfant sera le premier enfant qui sait que l'hébreu. » Et voilà, même pendant pendant le moment de la naissance, on n'avait pas le droit de parler un mot dans une autre langue que l'hébreu dans la maison des Ben Yehuda. Et lorsqu'on est venu visiter les Ben Yehuda, il fallait jamais parler le russe ou n'importe quoi que l'hébreu. Même pas le yiddish était permis. Et voilà, on a aussi introduit la langue par le jardin d'enfants. Par exemple, des enfants qui sont retournés à la maison, ils ont appris aux parents l'hébreu. N'est-ce pas? Si on s'imagine un enfant qui retourne et dit Shalom Abba, Shalom Ima, Manishma, Zekol, Zekachayafé, Lalechet les Gan Hayeladim, les Tzachek im Yeladim Acherim, les Lishmoa, Sipurim Yafim. Et voilà, ainsi on a appris l'hébreu. Et voilà, dans les années 1920, l'hébreu, cette ancienne langue des prophètes, est de nouveau parler dans les rues de Jérusalem. Et voilà, Ésaïe nous dit, donc, dans l'époque où le Messie triomphant sera présent, on parlera la langue de Canaan, l'hébreu. Eh bien, ça s'est jamais réalisé dans l'histoire humaine qu'une langue qui était morte plus de 1000 ans soit ranimée. C'est la première fois par l'hébreu. Mais il le fallait pour que Ésaïe 19, 18 puisse se réaliser. Troisième argument. Achat de terrain, 1882 jusqu'à 1940. Il faut que j'explique. La première période de la colonisation juive de la Palestine était caractérisée par le fait qu'on a acheté des grands terrains en Palestine par des prix absolument surélevé, d'ailleurs à l'époque plus cher que du terrain aux États-Unis. Mais même que le territoire était un désert, mais on a acheté des grands terrains surtout de grands propriétaires arabes à Beyrouth et à Damas, et même au Caire. Et voilà, cela devait se réaliser ainsi, car en Jérémie 32-44, ou dans le contexte, il s'agit des derniers jours, on lit, on achètera des champs à prix d'argent. Et on en écrira les lettres et on les scellera et on les fera attester par des témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem et dans les villes de Juda et dans les villes de la montagne et dans les villes de la Shephéla et dans les villes du Néguev, car je rétablirai leur sort, dit l'Éternel. À la lettre. Ça s'est réalisé. Mais il y a plus de détails dans ce texte. C'est pour ça, prophétie 4, achat en Benjamin. Le texte dit, on les fera attester par des témoins dans le pays de Benjamin. Eh bien, lorsqu'on voit sur une carte biblique où était le territoire de la tribu de Benjamin, alors on réalise que c'est depuis Jérusalem vers le nord, et nous savons aujourd'hui exactement où on avait acheté des terrains. Et voilà, entre Jérusalem et Ramallah, on a acheté énormément de territoires. 5. Achat à Jérusalem. Le texte dit, et aux environs de Jérusalem, et bien tout autour de la ville. Pas seulement à l'ouest, mais aussi à l'est de Jérusalem. On a acheté énormément de territoires. 6. Achat dans la montagne. Le texte dit, dans les villes de Juda et dans les villes de la montagne. Donc, le prophète parle du territoire de la Juda et mentionne les montagnes. Et voilà, les montagnes entre Jérusalem et Beersheba, c'est surtout dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, eh bien, entre Jérusalem et Hébron, on a énormément acheté dans les montagnes. 8. Achat dans le Néguev. Il y a des traductions qui disent dans le sud, mais Néguev veut dire sud, mais on ne peut pas utiliser ce terme pour l'Afrique du Sud, par exemple. Mais Negev veut dire toujours le sud du pays d'Israël. Donc, ce qui est le territoire du désert du Negev, juste au sud de Beersheba. Et juste au sud de Beersheba, dans le désert, on a acheté énormément de territoire. Et en plus, il y a mention de la Shephela. Le terme hébreu Shephela désigne particulièrement donc cette plaine basse à l'ouest des montagnes d'Israël. Donc le territoire de Tel Aviv et même plus au sud de Tel Aviv et au nord de Tel Aviv. Et là, on a acheté le plus de territoire en Judée. Donc chaque mot s'est réalisé. Point 9. Ville de l'Ancien Testament rebâtie, 1882 à 2010. Je lis les deux derniers versets d'Amos 9, écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dieu dit, « Et je rétablirai le sort de mon peuple Israël, et ils bâtiront les villes dévastées, et y habiteront et ils planteront des vignes, et en boiront le vin, et ils feront des jardins, et en mangeront le fruit. » Et je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de dessus leur terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. Eh bien, nous sommes aujourd'hui des témoins oculaires, comme des sites vétérotestamentaires sont aujourd'hui des villes modernes, avec plein de vie moderne. Ils bâtiront les villes dévastées. 10. Vignes et vins. Le même texte dit et précise, et ils planteront des vignes et en boiront le vin. Celui qui lit la Bible un peu superficiellement se dit, oui, mais donc ils mettront quelques vignes sur la terre. Mais il est remarquable de voir que chaque mot, chaque bout de phrase dans la prophétie a toujours un sens en fait spectaculaire. Parce que, bien sûr, nous sommes habitués de lire dans l'Ancien Testament des textes qui parlent des vignes et du vin et du jus de raisin, etc. Même aussi dans le Nouveau Testament, par exemple dans les paraboles du Seigneur. Mais, entre deux, au 7e siècle, juste après la mort de Mahomet, 622, les musulmans arabes de la péninsule de l'Arabie saoudite sont allés vers le nord et 638, ils ont conquis Jérusalem. Et dans la suite, le pays de la promesse est devenu un pays musulman. Et les musulmans ont un problème avec le vin, au moins pour la vie actuelle. Oui, parce qu'ils ont la promesse qu'on peut boire du vin tout le temps dans leur paradis. Mais, donc, ils ont détruit en quelque sorte l'agriculture en rapport avec vigne et vin. Et lorsque les Juifs sont arrivés en 1882, ils ont essayé de faire de l'agriculture et ils ont vu des problèmes immenses, car le sol était vraiment détruit. Alors, à l'époque, le baron de Rothschild, de Bordeaux, il a dit il faudrait apporter des vignes et les planter, car c'est idéal pour cet aspect d'agriculture. Et on a effectivement amené depuis la France, donc des plantes. Au début, il y avait des difficultés, mais avec des années, on a surmonté les difficultés du début. Et aujourd'hui, Israël produit des vins de première classe à l'échelle mondiale. D'ailleurs, entre deux, on a remplacer les vignes de Bordeaux par des vignes de la Californie. Mais bien sûr, c'est aussi lié avec Rothschild, n'est-ce pas? Ça fait pas une grande différence. Aussi de l'Allemagne, d'ailleurs, on a introduit. Et voilà, Israël a reçu beaucoup de médailles d'or pour les vins. Et alors, lorsqu'on sait cela, et puis on lit, ils bâtiront les villes dévastées, ils y habiteront, et ils planteront des vignes, et on boiront le vin. Ça a une signification. 11. Cep de l'étranger. En Ésaïe 17, en rapport avec les derniers jours, nous lisons, car tu as oublié le Dieu de ton salut. Et tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton lieu fort. C'est pourquoi tu planteras des plantations agréables et tu les sèmeras de cep étrangers. N'est-ce pas, vers 700 avant Jésus-Christ, on aurait pu se demander, mais pourquoi des ceps étrangers? Il n'y a pas assez de ceps au Proche-Orient. Bien sûr, à l'époque, on les avait aussi dans le territoire de la Jordanie actuelle. Seulement par la conquête de l'islam, cela est disparu. Eh bien, nous le savons que c'était exactement les ceps étrangers de la France, de l'Allemagne et des États-Unis qui ont contribué à l'accomplissement de cette prophétie. D'ailleurs, dans ce contexte-là, Dieu reproche, car tu as oublié le Dieu de ton salut. Eh bien, il faut se rendre compte qu'un grand nombre de Juifs russes qui sont retournés, qui ont commencé à retourner en 1882, 83, etc., étaient des agnostiques, des socialistes, des athées, qui cherchaient simplement une solution idéale, ou idéaliste, je veux dire, de la question juive. Mais ils n'étaient pas retournés pour accomplir la volonté, le dessein de Dieu. Et Dieu dit, car tu as oublié le Dieu de ton salut. C'est pourquoi tu planteras des plantations agréables et tu les sèmeras de ceps étrangers. 12. Des plantations de fruits. En plus, nous lisons, ils planteront des vignes et en boiront le vin, et ils feront des plantations et en mangeront le fruit. Eh bien, on a réalisé pas seulement les ceps sont une possibilité pour cette terre, mais également des fruits exotiques comme les oranges, les grapefruits, etc. Aujourd'hui, Israël produit par année des agrumes jusqu'à 900 000 tonnes par an. Et un tiers est exporté dans le monde. Donc, lorsqu'on lit cela et réalise ce que c'est les oranges Jaffa, n'est-ce pas? Ce qu'ils ont goûté, ils ont goûté la prophétie accomplie sur la langue. Ce n'est pas simplement quelque chose de signification absolument secondaire lorsqu'il a dit, et ils feront des plantations et en mangeront le fruit. 13. Le pays transformé, 1882 jusqu'à 2010. Je lis d'Ézéchiel 36, 34, où nous avons déjà lu le verset 24, où Dieu dit, je vous rassemblerai de toutes les nations. Et le pays désert sera labouré. Au lieu d'être une désolation aux yeux de tous les passants, par exemple, aux yeux de Mark Twain. Et ils diront, ce pays qui était désolé est devenu comme le jardin d'Éden. Et les villes ruinées et désertes et renversées sont fortifiées et habitées. Eh bien, les Juifs ont planté jusqu'à aujourd'hui 240 millions d'arbres. Ce qui aide à changer aussi le climat. C'est naturel. C'est tout un système écologique qui joue là un rôle fondamental. Aujourd'hui, Israël produit des fleurs par an 1,3 milliard. fleurs. Et c'est aussi exporté. Donc, lorsque j'ai un jour parlé sur ce sujet en Hollande, eh bien, j'ai expliqué, donc vous n'êtes pas les seuls. C'est peut-être un peu dur pour eux. Hein? 14. La fondation de l'État d'Israël, le 14 mai 1948. Nous avons vu que les premières décennies de la colonisation moderne des Juifs au pays des ancêtres étaient caractérisées par plusieurs grands projets. Mais il n'y avait pas d'État juif. Donc ils sont venus de toutes sortes de coins du monde, mais il n'y avait pas d'État. Mais finalement, le 14 mai 1948, l'État juif a été fondé. Ce qui était en fait un miracle, car c'était la conséquence directe de la destruction des 6 millions de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a poussé les nations civilisées à dire « Maintenant, il faut une solution de la question juive. Il faut un État juif en Palestine, malgré la rébellion et l'opposition des pays musulmans. » Eh bien, Ésaïe 66, verset 8, s'est réalisé. Qui a entendu une chose pareille? Qui a vu de telles choses? Fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour? Oui, c'était le 14 mai 1948. Une nation naîtra-t-elle en une fois? Oui, car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Eh bien, il y a là un aspect qui forme notre argument 15. La fondation de l'État d'Israël pendant une période de guerre. N'est-ce pas, le texte dit, pas simplement, fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour? Un Suisse dirait, oui, bien sûr, ça s'est passé le 1er août 1291. Mais là, il y a plus. Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Donc les douleurs de la grossesse, je peux dire que ça fait énormément mal. J'ai fait l'expérience de 6 fois. Donc par ma femme, n'est-ce pas? Mais j'ai aidé comme j'ai pu soutenir, n'est-ce pas? Et alors, ce sont vraiment des douleurs terribles. Et voilà, lorsque, à la fin du mois de novembre 1947, la multitude des nations de l'ONU ont voté pour une fondation future d'un État juif en Palestine, eh bien, le monde islamique a révolté, et juste après, la guerre a commencé. L'armée de la guerre sainte des Palestiniens, aidée par une deuxième armée, a déjà commencé la guerre contre les Juifs. Mais puisqu'il y avait encore les Anglais dans le pays, les autres armées des nations autour d'Israël ont encore attendu jusqu'à la nuit du 14 au 15 mai, où les derniers soldats britanniques ont quitté le pays. Et ensuite, ils ont fait la guerre totale. Et là, en plus, 7 armées officielles sont venues contre Israël pour soutenir les deux qui ont déjà commencé la guerre. C'était l'armée de la Jordanie, de l'Irak, de la Syrie, du Liban, de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite et du Yémen. Israël, à l'époque, au début de la guerre, n'avait presque pas d'armes lourdes et en tout 14 avions civils. Donc, c'était exactement donc, cette fondation de l'État d'Israël tombée dans ses travaux, dans ses douleurs d'enfantement, terrible. Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Les États-Unis, au dernier moment, voulaient annuler la fondation de l'État juif. Parce qu'ils se sont dit, mais ils vont être exterminés. C'est absolument clair sur le plan humain. Mais les Juifs ont dit, non, jamais. On ne va pas perdre cette chance après 2000 ans où c'était impossible de fonder, ils ont fondé l'État juif. 16. La conquête du Mont Sion le 7 juin 1967. Il faut que j'explique que l'ONU, en 1947, avait divisé une deuxième fois la Palestine pour ne pas donner aux Juifs le reste. Vous savez, juste après la Première Guerre mondiale, la Palestine s'était composée Israël d'aujourd'hui avec la bande du Gaza et la Cisjordanie et tout le territoire qui aujourd'hui est la Jordanie. Ça, c'était la Palestine. Et voilà, les Anglais, en 1921, se sont dit, mais on ne veut pas donner seulement la chance aux Juifs de construire un État en Palestine, mais aussi aux Arabes. C'est pour ça qu'ils ont découpé tout ce qui est à l'est du Jourdain. Et ils ont donné aux Arabes palestiniens donc 77% de la Palestine. Et ils ont fondé, en 1946, l'État appelé aujourd'hui la Jordanie. Ce qui consiste en trois quarts de la Palestine. Ce qui n'est, semble-t-il, pas connu par les politiciens mondiaux aujourd'hui et par les mass-médias. Mais on peut quand même apprendre des choses, n'est-ce pas, qu'on n'apprend pas par les mass-médias. Mais vous pouvez lire ça sur Wikipédia, n'importe où, ou dans la littérature spécialisée, où vous voulez. Eh bien, il y avait encore 23%, mais sous la pression du terrorisme arabe contre les Anglais, on s'est dit, on divise encore, et les Juifs peuvent avoir environ 12%, et avec le reste, on fera un deuxième État palestinien. Les Juifs ont accepté, au moins, on a un État, mais Jérusalem de l'Est, avec le mont de Sion, le mont du Temple, était exclu, car l'ONU voulait faire de ça une ville internationale. Mais qu'est-ce que c'est un sionisme sans Sion? C'est comme une belle avec un œil. Mais voilà, dans la guerre 48-49, la Jordanie, à l'aide avec toutes les autres 8 armées, a pu conquérir la Cisjordanie et Jérusalem de l'Est. Et en 1950, a même annexé ce territoire. Jérusalem a été divisée par un mur et les Juifs ne pouvaient même plus prier vers le mur de lamentation au long du mont de Sion. Eh bien, dans les années 1960, les Arabes, ayant reçu énormément d'armes modernes de l'Union soviétique, se sont dit « maintenant, le moment est venu où on peut détruire Israël ». Ce qui a amené aux guerres des six jours. Et pendant cette guerre, deuxième essai arabe de détruire Israël, l'État juif s'est dit, cela nous autorise à conquérir le mont du Temple. C'est pour ça, pendant la guerre des six jours, Jérusalem de l'Est a été, je dis, pas seulement conquis, mais délivré. Et voilà la prophétie en psaume 126, quand l'Éternel rétablit le sort de Sion, mont du Temple. Nous étions comme ceux qui songent. Alors, notre bouche fut remplie de rire et notre langue de chants de joie. Alors, on dit parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour ceux-ci. Ils l'ont dit. Après six jours, la guerre était finie sur les trois fronts. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous en avons été réjouis. Eh bien, Prophétie 17. Le but des ennemis, exterminer Israël. Nous lisons dans le psaume prophétique 83, verset 1er. Ô Dieu, ne garde pas le silence, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils trament avec astuce des complots contre ton peuple et ils consultent contre tes fidèles cachés. Ils ont dit, venez et exterminons-les, de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Eh bien, ce psaume s'est pas réalisé à l'époque de l'Ancien Testament, mais s'est réalisé dans notre époque. Trois fois, le monde islamique arabe autour d'Israël a essayé d'exterminer complètement Israël. Donc, de tuer, effacer les Juifs. Et cela, quelques années après la destruction des Juifs par les nazis en Europe. N'est-ce pas la première fois, 1948-49, guerre d'indépendance. 1967, la guerre des six jours. Et une troisième fois, 1973, guerre appelée la guerre du Yom Kippour. Par exemple, le président Gamal Abdel Nasser, encore en mai 1967, le président de l'Égypte avait dit « Notre but principal consiste en la destruction d'Israël. » C'est exactement ce langage utilisé dans le psaume. 18. Une alliance des ennemis, la Ligue arabe. Eh bien, on a le droit de demander, mais de qui parle ce psaume? Il parle simplement des ennemis. Oui, dans les premiers versets. Mais dans la suite, il donne des précisions. Verset 5. Car ils ont consulté ensemble d'un cœur. Ils ont fait une alliance contre toi. Ils ont fait une alliance. Eh bien, les pays arabes autour d'Israël avaient déjà, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, et ils se sont mis ensemble pour créer la Ligue arabe. Le but de cette Ligue, qui est, Ligue veut dire une alliance, n'est-ce pas? Du latin Liga. Une alliance, le but de cette alliance était rendre impossible une future fondation d'un État juif. Mais lorsque cette fondation est quand même devenue une réalité, le but de cette alliance était dans la suite d'effacer l'État juif. Car ils ont consulté ensemble d'un cœur, ils ont fait une alliance contre toi. Celui qui touche les Juifs, dit Zacharie 2, touche l'œil de Dieu. Et voilà, plus de détails au verset 6. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal et Ammon, et Amalek, la Philistie, avec les habitants de Tyr. Assour aussi s'est joint à eux, ils servent de bras au fils de Lot, c'est là. Eh bien, le prophète utilise les termes de l'époque. Il ne parle pas de la Jordanie, mais il utilise les termes comme Édom, ce qui désigne un peuple qui se trouvait au sud de la mer Morte, dans le territoire de la Jordanie actuelle. Et Moab, un peuple à l'autre côté de la mer Morte, en Jordanie actuelle, et Ammon au nord de la Jordanie actuelle. D'ailleurs, le nom de la capitale, Amman, vient encore de cette nom de tribu Ammon. Eh bien, ces termes nous indiquent le territoire de la Jordanie actuelle, qui était un des six membres fondateurs de la Ligue arabe. D'ailleurs, dans ce texte, tous les six membres fondateurs sont mentionnés. Et aujourd'hui, plus de 20 nations qui font partie de la Ligue, mais ici, on a les fondateurs. N'est-ce pas? Ça serait comme si on avait une prophétie de l'Antiquité qui parle du peuple des Helvètes, des Celtes, qui étaient donc au début de la Suisse, ou des peuples qui aujourd'hui forment l'Allemagne. Donc, c'est la même chose. D'ailleurs, ils servent de bras au fils de Lot. Lot, le neveu d'Abraham, avait deux fils, donc les pères de Moab et d'Ammon. Donc, au fils de Lot, c'est encore la même chose. Mais cela montre que les autres nations mentionnées ici aident particulièrement à ce pays qui aujourd'hui est la Jordanie. Et effectivement, en 1948, le leader de ses ennemis contre Israël, c'était la Jordanie. Et les autres sont venus pour aider la Jordanie, qui voulait toute la Palestine. 20. Une alliance des ennemis, l'Arabie saoudite. Le texte parle aussi au verset 6 des Ismaélites. Ismaël était le père de plusieurs tribus arabes, qui, entre autres, ont fait des colonies dans le territoire qui est aujourd'hui l'Arabie saoudite. C'est pour ça, Muhammad de la Mecque, il s'est considéré comme un Ismaélite. Eh bien, l'Arabie saoudite était aussi un membre fondateur de la Ligue. 22. Le Liban. Nous avons au verset 7 la mention de deux villes, Gebal et Tyr. Et voilà, Tyr, une ville du Liban au sud, et Gebal, en arabe, on prononce doucement le G, Jibel. C'est Byblos en grec. Voilà, au nord du Liban. Donc, le Liban est indiqué aussi un membre fondateur. 21. La Syrie. Le texte parle des Acaréniens, ce qui était un peuple de l'Antiquité qu'on a trouvé là sur le territoire de la Syrie, du sud de la Syrie et du nord de la Jordanie. Donc, ce terme indique le territoire de la Syrie, qui était aussi un membre fondateur. Et puis, prochainement, on trouve le terme la Philistie. La Philistie était dans l'Ancien Testament le territoire de la bande du Gaza d'aujourd'hui. Eh bien, tous ces six membres fondateurs ont fait la Ligue en vue des habitants de la bande du Gaza. Les Palestiniens sont indiqués par ça. Ensuite, on a Amalek, qui était un peuple qui, déjà lors de la sortie d'Israël de l'Égypte, était un peuple sur la péninsule du Sinaï. Donc, ce qui indique le territoire de l'Égypte actuelle, qui était aussi un membre fondateur. Ensuite, 25, une alliance des ennemis, qui inclut l'Irak. N'est-ce pas, le terme Assour au verset 8 désigne un peuple ou un royaume plutôt au nord de l'Irak actuel, où il y avait la ville Assour, Ninive, Kalah. L'Irak était aussi un membre fondateur.